Laurent Joly, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui à l'occasion de l'apparition d'un nouveau livre que vous dirigez, qui s'appelle Vichy, Histoire d'une dictature 1940-1944, dans lequel, avec un collectif d'historiens, vous faites à nouveau frais une histoire globale de Vichy, suite aux nombreux apports, on va dire, historiographiques des 30 dernières années qui ont été faites. Laurent Joly, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous avez publié de très nombreux ouvrages autour de la rafle du Veldiv, autour du savoir des victimes, sur justement comment est-ce qu'on avait raconté à la fois l'histoire de Vichy et de la Shoah en France. Et aujourd'hui, et vous intervenez à de nombreuses reprises dans le débat public, justement autour des questions mémorielles et spécifiquement autour des usages contemporains et souvent assez malheureux que l'on peut faire tant de Vichy que du maréchal Pétain. Alors, c'est pourquoi on pourrait presque commencer par encore Vichy, encore une histoire de Vichy, ou est-ce que finalement c'est une illusion, il n'y en a pas eu tant que ça, des histoires de Vichy?
Non, des histoires de Vichy générales, à la fois histoire politique, fondée sur des recherches de première main, et qui en plus, comme c'est le cas dans ce livre, n'oublie jamais l'opinion et ce que pensaient les Français, il n'y en a pas tant que ça, effectivement, et une grande synthèse comme ça, ça fait de longues années qu'il n'y en avait pas eu.
Avec un point qui est intéressant, c'est que le choix que vous faites, c'est à la fois un choix d'accorder une place très importante aux acteurs, parce qu'entre autres, dans les contributeurs, il y a le biographe de Laval, la biographe de Pétain, et de montrer les apports de ces éléments biographiques, voire psychologiques. Et de l'autre côté, ce qui est très important, c'est que pendant tout le livre, sont rappelés un certain nombre de mentions de journaux, on va dire de grands témoins, qui vont de Paul Morand à Hélène Opneau, à d'autres acteurs, et à Léon Werth, et qui sont aussi, pourquoi avoir fait ce choix, justement, des journaux et des témoins de l'époque ?
Parce que justement, on voulait pas que ce soit qu'une histoire politique par le haut. Donc effectivement, vous l'avez bien dit, on suit le parcours des grands dirigeants de Vichy, en fait, et on est plongé dans leur biographie, dans leur psychologie. Et ça, c'est effectivement l'apport des grandes biographies qui sont sorties depuis 10 ans. Vous avez cité Renaud Mel, ce biographe donc de Laval, Bénédicte Verrèche-Chaignon, la biographe de Pétain, mais il y a aussi Bernard Cossack-Viola qui a fait une biographie extraordinaire de l'amiral Darlan, mais aussi une autre de Jacques Benoît Méchain, une sorte de personnage qui a joué dans les coulisses de Vichy un rôle fondamental. Donc cette sensibilité biographique, effectivement, ça c'est quelque chose d'assez nouveau. On étudie Vichy à la fois comme un système, mais aussi on monte en permanence les marges de manœuvre des acteurs et en quoi ce qu'ils font est aussi déterminé par ce qu'ils sont, tout simplement, par aussi leur parcours biographique, leurs affects, leur sensibilité. Ça joue sur l'histoire. Et je pense que c'est une approche qui, aujourd'hui, est plus particulièrement, je trouve, pertinente parce qu'on est dans un monde où on a l'impression qu'on a des grands dirigeants qui, d'un claquement de doigts, par leur caprice personnel, peuvent comme ça changer le cours du monde. On pense à Trump aux États-Unis et on peut plus écrire l'histoire comme on l'écrivait avant, pensant que c'est les structures qui dominent et que les acteurs, faut pas s'intéresser aux grands hommes, que c'est de la vieille histoire comme on le faisait au 19e siècle. Ça marche plus. Il faut évidemment étudier les systèmes. Il y a des courants, il y a des mouvements profonds dans les sociétés, mais il y a un rôle majeur des individus. Et ça, on tenait vraiment à bien mettre cet aspect-là en valeur. C'est une histoire politique, mais vous l'avez dit, qui n'oublie jamais ce que pensait l'opinion. Et pour essayer de comprendre ce que pensait l'opinion, dans un livre qui est un livre collectif, c'était pas facile. Et donc, l'idée, c'est que, bon, d'abord, il y a des sources qui permettent de mesurer l'opinion, les rapports des préfets, mais on voulait donner une unité à l'ensemble du livre, et aussi qui est quelque chose de très incarné, de très vivant. Et donc on s'est dit, on va partir de grands témoins, c'est-à-dire de gens qui ont été des témoins, c'est-à-dire qu'ils ont tenu leur journal. C'est un journal, on en a 5, hein. Hélène Opneau, vous l'avez cité, vous avez cité également Paul Morand, il y a aussi Maurice Garçon, un avocat conservateur, le pasteur Bogner, qui était le chef de l'église protestante, et Paul Morand, qui est un romancier, qui était dans l'entourage de Pierre Laval. Et ce qui est intéressant avec ces témoins, il y a Léon Werth aussi, que j'oubliais, donc 5 grands témoins, ce qui est intéressant avec eux, c'est que ce sont, à part Morand, qui est voilà, et puis Bogner aussi, le pasteur, qui va à Vichy, qui va voir un peu tout le monde, et les autres sont des observateurs en quelque sorte, et ils ont le souci de toujours noter dans leur journal intime ce que pensent les gens. Alors ils vont parler avec leur concierge, ils vont parler avec le commerçant, ils vont parler avec les gens avec qui ils travaillent, et donc on a comme ça un peu, grâce à eux et tout le long du livre, le ressenti des Français et des Françaises, voilà, qui qui montre comment cette politique de Vichy était perçue. Et c'est intéressant de voir que c'est une politique qui, au départ, les Français sont derrière Pétain. Ça, voilà, c'est clair, c'est net. Il y a une sorte d'adhésion massive à cette figure d'un homme qui a 84 ans, qui est un homme très digne, le vainqueur de Verdun, qui nous parle comme un père, comme un grand-père, et qui va nous sauver. C'est l'homme providentiel. Mais très tôt, on voit que l'opinion ne partage pas les orientations politiques en matière de politique étrangère. La collaboration, ça passe pas. La poignée de main entre Hitler et Pétain à Montoire en octobre 40, ça passe pas dans l'opinion. Voilà. Et pour la politique intérieure, ça va bouger plus lentement. Et voilà, c'est cette progression qu'on montre.
Ah oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement ces différents auteurs de journaux rendent compte d'opinions qui sont celles de leur entourage, et en même temps, ça permet aussi, face à une objection qui est de dire oui, mais c'est toujours facile a posteriori de juger, de savoir comment ça allait se passer, puisqu'on sait comment ça termine. Ce que vous montrez, et dans le cas de la très très grande lucidité, que ce soit celle d'Hélène Hopneau ou de Léon Werth, c'est qu'il y a des acteurs, enfin qui sont des acteurs qui n'agissent pas, on va dire politiquement, mais qui sont au moment donné sur place, qui voient tout de suite et qui ont tout de suite le sens de l'histoire et qui finalement, dont les analyses finissent par rejoindre celles qu'on peut avoir aujourd'hui avec une masse archivistique infiniment plus supérieure à celle qu'ils ont. Et donc c'est aussi possible, c'est qu'on reviendra sur la question du choix fait par les acteurs de telle ou telle décision, c'est aussi possible sur le moment, dans le feu de l'action, d'avoir une vision claire des choses.
Absolument, c'est très important ce que vous dites, parce qu'on a vraiment fait le choix délibéré de ne prendre que les sources de l'époque. Alors les archives de l'État, ça va de soi. Donc les archives d'époque, dans le contexte du moment, mais aussi pour les témoins. Parce que quand on utilise les témoignages de gens qui ont écrit leur mémoire après la guerre, c'est plus la même vision qu'on a. Et donc les témoins qu'on a, non seulement ils ont écrit leur journal pendant la guerre, mais ce sont des journaux qui n'ont pas été retouchés. Il y a une authenticité absolue. Et d'ailleurs, sur ces journaux, il n'y en a qu'un seul qui a été publié après la guerre, c'est Léon Werth qui l'avait publié. Les autres, ce sont des journaux, les quatre autres, qui sont restés dans les archives des familles, dans des greniers, et qui ont été publiés après la mort de leurs auteurs, qui n'ont pas été retouchés. Ils ont été écrits sur le moment et oubliés après. Donc ça, c'est très important, parce que quand on voit comment les gens, sur le moment, jugent les situations, effectivement, on se rend compte que mais il y a des gens qui comprennent très tôt ce qui se passe, qui comprennent que, contrairement au calcul de Vichy, parce que en fait, le gouvernement dont on parle, ce pouvoir qui s'est mis en place autour de Pétain et de Pierre Laval, il est parti d'un constat, d'une croyance même, on peut dire, c'est que l'Allemagne allait gagner la guerre. Alors après, ils diront, mais non, on a essayé de temporiser. Non, c'est leur croyance du moment, leur conviction plutôt absolue du moment, c'est que l'Allemagne va gagner la guerre et qu'il faut donc jouer cette carte-là parce que Hitler va dominer durablement l'Europe. Ça, c'est comme ça, c'est l'horizon des acteurs, des dirigeants de Vichy sur le moment. Et il y a des gens qui se disent très, très tôt, comme le pasteur Bogner, il faut souhaiter que l'Angleterre gagne, comme Maurice Garçon qui très tôt se dit, c'était peut-être pas la bonne idée, l'armistice. Ils sont peut-être en train de se tromper. Donc voilà, et qui comprennent qu'il y a là un engrenage. En fait, ce livre, c'est aussi le récit d'un engrenage. Et les choix qui ont été faits en juin, juillet 40, on se rend compte qu'ils vont vraiment déterminer le reste, et qu'après, pour s'en sortir, les gens se reconstruiront des histoires, diront qu'ils ont fait double jeu, parce que la guerre aura tourné comme elle a tourné.
Alors justement, venons-en à cet engrenage. Vous avez à un moment une phrase très, très forte, qui est de dire, finalement, au moment de juin 40, il s'agit de transformer ce qui est une défaite stratégique en défaite morale. C'est-à-dire ça, c'est l'analyse immédiate que fait Pétain et son entourage, qui est de dire on évacue la question militaire, c'est pas à cause des militaires qu'on a perdu la guerre, c'est à cause de la société, et cet engrenage-là, il va créer quelque chose de central sur lequel vous insistez, qui est que il s'agit pas simplement de mettre en œuvre la collaboration, il s'agit en même temps de mettre en œuvre un projet politique qui est la Révolution nationale. Et ça, c'est une vraie singularité parmi les États occupés en Europe de l'Ouest.
Absolument, c'est le seul pays vaincu qui ne fait pas le choix d'aller à Londres. Alors, on sait, heureusement, il y a un sous-secrétaire d'État qui s'appelle le général de Gaulle et qui va profiter d'un déplacement qu'il a fait le 15 juin 1940 à Londres pour prendre contact avec Churchill et du coup s'imposer comme celui qui va représenter la voix de la France. Mais les autres pays vaincus, ils ont un gouvernement qui va là-bas, Pays-Bas, Hollande, Belgique, Norvège et la France. Le gouvernement en place, le maréchal Pétain qui prend la tête du gouvernement le 17 juin 1940, lui, qui est, au début, il est dans le gouvernement, il est évidemment l'autorité morale la plus grande, parce que c'est le vainqueur de Verdun, parce qu'il a 84 ans, c'est le maréchal Pétain, mais il est minoritaire. Ce qu'on aurait dû faire, normalement, si les choses étaient passées comme elles auraient dû, enfin comme elles auraient pu plutôt, c'est qu'on aurait pu aller en Afrique du Nord, enfin voilà, la France en plus avait un empire, hein, donc avait en fait plus d'atouts que la Belgique ou les Pays-Bas. Et c'est paradoxalement le pays vaincu qui a le plus d'atouts pour essayer de trouver une autre solution. On capitule, puis ensuite on voit comment les choses tournent. On se met dans une position d'attente et puis voir si on peut après reprendre ou pas le conflit. C'est ce pays-là qui va faire le choix de la collaboration et de la vengeance politique. Au Danemark, le gouvernement reste en place, mais il fait le choix de l'Union nationale et de la gestion. Donc la France, c'est vraiment un cas unique en Europe, parce que, et c'est pas anodin, le livre commence en 1934, la France, elle est en 1940, elle paye la facture de plusieurs années d'une crise morale, politique, économique aussi, mais surtout morale et politique, très profonde. C'est-à-dire qu'il y a une émergence de la droite ligueuse qui veut prendre sa revanche sur la République. Ça, ça joue. Le Front populaire, ça, c'est absolument déterminant. Le Front populaire, d'ailleurs, en 1936, c'est l'une des rares fois où le maréchal Pétain, qui a 80 ans en 36, qui est cette figure incontestable et très célèbre, va prendre parti. Soldat prend pas parti politique, il prend parti, il s'inquiète pour la liberté des Français, il dit du bien des croix de feu du canal de la Rogue, on voit, il prend parti. Et donc cet homme-là, conservateur, pris en main en plus par un entourage lié à l'extrême droite, comme son principal conseiller juridique, Raphaël Alibert, il considère que la France, elle a mérité sa défaite. Cette défaite, c'est l'esprit de puissance, là on reprend les mots célèbres de discours du maréchal Pétain. Vous savez que les mots les plus célèbres des discours de Pétain, ils ont été prononcés avant même l'avènement du gouvernement de Vichy, de l'État français. C'est le Pétain qui devient président du Conseil et qui dit aux Français, en gros, vous avez mérité votre défaite. Vous avez trop joui, trop profité, la terre, elle ne ment pas, c'est un redressement moral auquel je vous convie, alors qu'il n'y a même pas encore l'armistice qui a été signé. Donc ils sont vraiment déterminés à ce que ce soit pas une défaite militaire, mais une défaite des 40 heures, une défaite des congés payés, d'un pays qui s'est amolli dans la démocratie, dans les revendications. C'est ça la grille de lecture, et de Pétain, et du chef de l'armée aussi, le général Weygand, qui lui aussi est un vieillard, il a plus de 73 ans, et qui lui aussi, alors lui encore plus que Pétain, appartient vraiment à la tradition de l'extrême droite française.
Avec une dimension que vous soulignez, quand vous dites que les discours les plus connus datent d'avant la mise en place de Vichy tel qu'on le verra après, avec une autre dimension qu'on oublie aussi parfois, c'est quel mauvais négociateur, entre guillemets, Pétain est, puisque le 17 juin, quand il fait son discours en appelant à cesser au combat, rien n'est encore signé avec les Allemands, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore fait d'armistice, on n'a pas encore fait, évidemment, a fortiori de capitulation, qu'on dit c'est bon, déjà, on arrête, il n'y a pas de poire. Donc, et ça, on le verra finalement, paradoxalement, pendant tout le régime de Vichy, c'est des gens qui sont persuadés d'être d'excellents négociateurs, qui n'ont qu'une obsession, comme vous l'avez dit, c'est du côté des vainqueurs. En l'occurrence, ils pensent pendant très longtemps que ça va être l'Allemagne. Et donc, qui, à chaque fois qu'ils auront à négocier quelque chose, en fait, ça verront de négociateurs assez médiocres. Et surtout, ils se rendront compte qu'ils n'ont aucun pouvoir face à l'Allemagne.
Absolument. Et ça prouve qu'être à la tête de l'État, c'est un métier. Et c'est pas parce que on est l'homme providentiel qu'on croit en vous, que vous avez été merveilleux dans votre domaine, que vous pouvez être un merveilleux homme politique. Et c'est vrai, vous avez raison de le signaler, Pétain commence par une faute absolument énorme, qui est ce discours du 17 juin 1940, lorsqu'il vient d'être nommé président du Conseil, où il dit « il faut cesser le combat ». alors que on vient juste d'essayer de sonder les Allemands pour savoir s'ils sont prêts à accepter un armistice. Et le souvenir qu'on a conservé d'ailleurs de l'armée en 1940 est totalement lié à ça. Parce que le souvenir qu'on a gardé, c'est une armée en débandade, où les chefs savent plus quel ordre donner à leurs hommes. C'est lié à ce discours de Pétain, parce que entre le 17 juin 1940 et la signature de l'armistice qui entre en vigueur le 25 juin 1940, vous avez une semaine. Pendant cette semaine-là, eh ben, on continue de faire des prisonniers de guerre. On a des hommes qui sont arrêtés, on a des hommes qui meurent. C'est une déroute absolue parce que et les chefs et les soldats ne savent plus comment se comporter. Alors le lendemain dans la presse, on essaye de changer. On dit il faut essayer de. On réécrit les paroles de Pétain. Il faut essayer de cesser le combat. Mais c'est un véritable fiasco. Donc effectivement, Pétain commence très mal et sa Bénédicte Verrières-Chaignon le montre très bien dans sa biographie de Pétain, y compris dans ce qu'elle écrit dans ce livre. On a un homme qui est pas du tout prêt à être un négociateur et qui pense, et Laval aura la même naïveté, alors que Laval, lui, c'est un vieux politicien. Donc, vous voyez, c'est pas que l'inexpérience qui joue, mais c'est aussi une illusion. Hein. C'est l'illusion que l'Allemagne va gagner la guerre et que si on montre de la bonne volonté, si on donne des choses sans contrepartie, eh ben, l'Allemagne nous en sera reconnaissante. C'est vraiment être très naïf à l'égard d'Hitler, qui n'avait qu'un seul vœu, c'était d'abattre le pays.
Avec une autre dimension, justement, très importante, sur laquelle vous insistez, c'est au moment de la mise en place de Vichy, c'est-à-dire au moment de l'abrogation de la République, au tournant de juillet 40, ce que vous dites, c'est, alors évidemment, ça fait longtemps qu'on est sorti de la thèse du complot, mais c'est on a affaire finalement à une sorte de coup d'État constitutionnel de circonstances. Et cette circonstance, elle est entre autres donc l'association entre Alibert et Laval que vous avez commencé à nommer. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui depuis 10 ans se disent cette chose-là va arriver, on va prendre le pouvoir, mais ils perçoivent par contre très précisément que là, entre juin et juillet, quelque chose se joue où il y a un coup à faire. Et c'est vraiment manifestement ce que vous dites leur raisonnement. Et ce coup, ça consiste à prendre le pouvoir.
Absolument, c'est la chance de leur vie. C'est une des thèses assez, c'est une thèse assez nouvelle qu'on développe dans ce livre. Qui est que, parce que vous savez, il y a toujours cette thèse, est-ce que c'était légal ou pas, illégitime. Bon, ce qu'on montre, c'est que il y a une situation évidemment exceptionnelle liée à la défaite, liée à ce chaos et à ce traumatisme. C'est la France, c'est l'un des premiers pays au monde, avec un empire, avec la plus forte armée du monde. Et c'est ce pays-là qui, en quelques semaines, est balayé. Donc, il y a un traumatisme qui est absolument terrible, plus aussi cette polarisation politique et des gens qui veulent prendre leur revanche. Voilà. Et c'est des acteurs qui vont avoir une audace folle et qui vont jouer à Libère, qui est ce conseiller de Pétain. C'est un exalté, lui. C'est un exalté et qui est sans foi ni loi, qui est prêt à mentir, qui est prêt à faire des faux. On voit qu'il est à Bordeaux. Quand le gouvernement est à Bordeaux, il est secrétaire d'État. On voit qu'il fait des faux, qu'il ment. Enfin, ils sont prêts à tout pour prendre le pouvoir. Ils vont profiter de ce chaos-là pour dissimuler quel est leur projet. Leur projet, c'est pas simplement comme ils le présentent, créer une nouvelle constitution qui va être certes plus autoritaire, mais c'est carrément faire un coup d'État. Et la thèse du livre, c'est de dire qu'il y a bel et bien eu un coup d'État juridique. C'est-à-dire un coup d'État juridique au sens où il va partir du vote des 9 et 10 juillet qui abroge la République et qui donne au maréchal Pétain les pleins pouvoirs constituants. On dit toujours les pleins pouvoirs, c'est pas les pleins pouvoirs, c'est les pleins pouvoirs constituants. C'est-à-dire que Pétain, il a mandat de la nation de préparer une nouvelle constitution. Alors certes, ce qu'on dit aux parlementaires réunis à Vichy, c'est que cette constitution sera autoritaire, qu'elle sera autour des valeurs, travail, famille, patrie. Mais enfin, normalement, on aurait dû rester en République. Normalement, cette nouvelle constitution aurait dû être soumise aux assemblées et votée par les assemblées. Or, dès le 11 juillet 1940, Raphaël Alibert rédige des actes constitutionnels qui donnent à Pétain les pleins pouvoirs effectifs, il a tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs législatifs, et en plus, Pétain nomme un successeur qui est Laval. Vous voyez, c'est génial comme coup. Ils se sont comme ça octroyés, grâce au vernis de l'égalité de la veille, ils ont créé un nouveau régime qui s'appelle l'État français, qui est une dictature, une monarchie, où on a un chef de l'État qui désigne un successeur.
Vous évoquez en commençant la question du choix des acteurs. Et à ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est par exemple la position de Lebrun, du président de la République, qui manifestement, vous dites, est terrorisé par Laval. Et que, par contre, le seul moment où il manifeste un semblant d'autorité, c'est quand il est face à une délégation de parlementaires qui essaye un peu de contrer, justement, qui voit la manœuvre de Laval et Alibert, qui essaie de la contrer, et donc qui pense qu'ils vont convaincre Lebrun d'être de leur côté. Et c'est le seul moment où Lebrun, finalement, résiste, alors qu'il va quasiment tout céder à Laval.
Oui, c'est des moments, vous savez, ce chapitre-là, sur ce qui s'est passé à Vichy, un chapitre entier sur ce qui s'est passé à Vichy en juillet 40, parce que c'est peut-être le chapitre qui nous parle le plus. Parce qu'on se dit, ces hommes-là, c'est loin, mais ils sont proches de nous. Et ce qui est très troublant dans ce qui s'est passé à Vichy, c'est que le Parlement, en fait, s'est suicidé, en quelque sorte, puisqu'on a abrogé la Troisième République, et puis on a dit, on va faire une nouvelle constitution. Donc, ils ont renoncé à leur pouvoir. Mais en fait, ils n'auraient pas voulu faire ça, sans doute. Et on se rend compte qu'il y avait d'autres solutions. Et ces autres solutions, elles recueillaient l'assentiment de l'immense majorité des parlementaires. Et en fait, on se rend compte que chacun s'est un peu aveuglé. Alors Lebrun, vous avez raison de citer cet exemple-là, parce que vous avez un homme politique qui comprend, qui est un malin, qui comprend que Pierre Laval prépare un coup. C'est Flandin. Flandin, c'est le grand rival de Laval. Vous savez, il y avait 3-4 leaders de la droite durant l'entre-deux-guerres. Vous aviez Laval, vous aviez Flandin, vous aviez, j'oublie son nom, il y a Barthou, il y a Tardieu. Voilà, c'est les 3-4 grands dirigeants de la droite française. Ce serait Fillon, Sarkozy, enfin, ouais, Bayrou. Vous voyez, c'est vraiment les grands leaders de la droite parlementaire de l'entre-deux-guerres. Et Flandin, il a compris le jeu de Laval. Et pour essayer de l'empêcher, il dit, ben, on n'a qu'à élire Pétain président de la République. Il est déjà président du Conseil, il est président de la République, il aura tous les pouvoirs, mais on reste en République, on reste en légalité. Tous les parlementaires sont d'accord, ils l'applaudissent. Eh ben, ça marche pas. Parce que Lebrun se dit, ben non, moi je veux pas, moi je veux rester président de la République. Il comprend pas, ou il veut pas comprendre. Et alors, Flandin lui dit, mais vous voyez pas que là, il y a un coup qui se prépare. Ben, vous avez qu'à l'empêcher, vous avez qu'à voter contre. Donc, on voit vraiment ces moments où finalement des acteurs sont plus capables de réfléchir parce qu'ils sont entraînés dans des choses irrationnelles, ils sont dans une sorte de lessiveuse et ils en arrivent à faire une chose complètement irrationnelle qui va contre leurs propres intérêts. Voilà, ça nous fait réfléchir parce que on voit parfois des situations politiques qui pourraient se dénouer. On se dit, ben, ils pourraient s'entendre entre eux, trouver une solution. Et ben non, c'est quand même la politique du pire qui l'emporte. Ça, quand on voit certains débats à l'Assemblée nationale, on ne peut pas s'empêcher de penser à ces moments de chaos, ce moment de chaos qu'on a vécu à Vichy en juillet 40.
Et d'ailleurs, vous avez employé le mot qui est important, vous dites c'est une dictature. Alors que pendant très longtemps, le vocabulaire employé était plutôt celui du régime autoritaire. D'abord, qu'est-ce qui en fait la différence en termes, si ce n'est de sciences politiques au moins, et d'histoire entre ces deux notions, est-ce qu'elles se recouvrent ou pas? Et pourquoi, pour vous, c'est évident que Vichy est une dictature?
Et oui, c'est étonnant, effectivement, pendant très longtemps, le mot dictature, et même encore aujourd'hui, là, quand je fais des présentations, j'ai des gens quand même, dictature, vous êtes bien audacieux, vous allez loin, mais en fait, aujourd'hui, on ne peut pas voir Vichy autrement que comme une dictature. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que régime autoritaire et dictature, justement, c'est plus synonyme. On a des démocraties qui dérivent, donc on est dans un présent qui fait voir le passé un peu autrement. Le présent dans lequel on est, ce sont des régimes qui basculent tout doucement. C'est plus les choses brutales qu'on connaissait au XXe siècle. Donc les politistes disent c'est des régimes illibéraux, c'est des semi-régimes autoritaires. Et oui, on est dans des entre-deux aujourd'hui. Or, Vichy, c'est bel et bien du jour au lendemain, la suspension des assemblées, un homme qui s'est octroyé les pleins pouvoirs effectifs, qui a désigné un successeur, vous avez plus de liberté de la presse, vous avez plus le droit de manifester. On fait tout de suite des lois qui permettent de renvoyer de la fonction publique des agents on renvoie les naturalisés. Enfin, ce sont des mesures qui sont le propre de régimes dictatoriaux. Donc, on peut plus qualifier Vichy, ça marche plus. Ça marche plus par rapport à la réalité des faits de l'époque, mais aussi par rapport à comment on observe aujourd'hui le présent. Ça peut même, à mon avis, prêter à ambiguïté si on continue de qualifier. Et ça, cette clarification, elle vise aussi les gens qui vous disent « Ah oui, mais Macron, c'est la dictature. » On entend ça, ouais, c'est « Ben non, Trump, c'est un dictateur. » Non, les États-Unis ne sont pas en dictature. c'est une démocratie qui est secouée, c'est une démocratie dans laquelle les contre-pouvoirs sont extrêmement affaiblis, mais c'est un pays dans lequel les contre-pouvoirs existent encore. À Vichy, vous n'avez plus de contre-pouvoirs. Même le Conseil d'État ne joue pas du tout son rôle de conseil. Tout le monde est mis au pas. Et on voit que, parce que pour autant dans ce livre, il y a aussi la thèse de zones grises au cœur de l'État, des gens qui vont essayer de tempérer la politique de Vichy, mais c'est toujours en se cachant, c'est toujours en voilà, il y a jamais un régime qui peut... C'est pas une dictature totalitaire. C'est une dictature pluraliste, si vous voulez. C'est une dictature qui laisse des marges à certains acteurs, mais c'est quand même bel et bien une dictature. C'est une évidence, pas simplement pour les juristes ou les politistes, mais aussi pour les historiens.
Oui, et pour autant, puisqu'on est dans les nuances et c'est important, à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la mise en place en juin-juillet 40, on n'a pas affaire à une dictature fasciste. C'est-à-dire que ce n'est pas... Il y a une tentative de mise en place de parti unique qui n'aboutit pas. Donc à ce moment-là, dans un premier temps, certes, il y a la Révolution nationale, mais la logique n'est pas, au sens où on peut l'entendre historiquement aujourd'hui, une logique fasciste.
Absolument, il n'y a pas de fascisme qui s'installe en France. C'est important de le signaler. Il y a des fascistes en France. Vous avez un parlementaire, d'ailleurs, ou ancien parlementaire, je ne sais plus, j'ai un trou, mais Jacques Doriot, qui est là, qui est à Vichy, qui est le chef du PPF, qui fait pression, qui lui aurait rêvé d'installer un régime fasciste sur le modèle nazi. Vous avez, au moment même des débats au Parlement, vous avez un certain nombre de parlementaires qui vont dire derrière Gaston Bergerie et d'autres, Marcel Déat, qui vont dire « il faut que la France crée un parti unique, fasse un État fasciste pour s'aligner sur l'Allemagne nazie ». Ils sont gentiment écartés, donc du coup ils vont à Paris, donc ils vont créer cette opposition qu'on va appeler collaborationniste. Donc Vichy, c'est vraiment, quand on regarde le gouvernement qui est mis en place le 12 juillet 1940, c'est un gouvernement d'union des droites. L'extrême droite n'est pas dominante, l'extrême droite est un élément de cette union des droites, c'est une union des droites qui applique le programme de l'extrême droite, mais c'est pas des fascistes. Vous avez qu'un seul fasciste en fait dans ce gouvernement, c'est un ancien socialiste, c'est Adrien Marquet, ce qu'on appelle un néo-socialiste. Adrien Marquet, lui, il est vraiment dans une ligne fasciste, fascisante, mais il est minoritaire.
Et là, en revanche, est-ce qu'on peut considérer que ce que vous évoquez aussi, après que Laval soit renvoyé fin 40, quand en 41 c'est Darlan qui prend le pouvoir, est-ce que là, on peut considérer qu'on a un premier mouvement un peu de fascisation du régime, avec cette idée qu'il y a une déception finalement, c'est que la Révolution nationale ne s'est pas faite par le bas comme espéré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un désir fou de la population française de l'effectuer, et donc il faudra la faire par le haut.
Exactement, c'est ce qui se passe en 1941. Alors il y a différents facteurs qui expliquent ça. Il y a effectivement le sentiment que il y a au sein du gouvernement français la prise de conscience que, bon, déjà on sait depuis octobre 40 que la collaboration ça marche pas trop, mais la Révolution nationale ça marche pas non plus tant que ça en 41. On voit que les gens n'adhèrent pas tant que ça, et donc il y a la décision d'un durcissement à l'été 1941. Il y a aussi ce moment qui est que l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique, donc là le gouvernement français se dit maintenant on a un ennemi commun avec l'Allemagne, le communisme, parce qu'on était bien embêté par l'existence du pacte germano-soviétique. Donc là, on se dit va peut-être y avoir une sorte de grande union des pays européens en lutte contre le bolchevisme. Donc l'amiral Darlan, qui a remplacé Laval, va essayer de convaincre les Allemands que la France puisse, comme l'Italie ou l'Espagne, rejoindre le pacte anticominterne. Donc vous voyez, tout ça fait qu'il va y avoir, et c'est l'une des thèses qui est développée dans le livre, une première, ce qu'on appelle vraiment, c'est Virginie Sonsico qui utilise la formule, une première fascisation du régime. Et alors, quand on dit première fascisation, on a même des vrais nazis. C'est-à-dire qu'on a un secrétaire d'État qui s'appelle Jacques-Benoît Méchain, qui est un historien, qui est un pur intellectuel. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui voit la politique dans son cabinet d'études et qui est un admirateur inconditionnel du nazisme. Il croit vraiment en ça, il pense que c'est la voie de l'avenir, et il va essayer de convaincre Pétain et Laval d'opérer un renversement des alliances pour vraiment se ranger totalement du côté de l'Allemagne. Donc, vous voyez, ce moment 41, on l'a parfois un peu oublié.
Avec une formule qui est très importante, c'est, vous dites, enfin, les auteurs disent, la répression n'est pas une réaction, mais un projet. C'est-à-dire que la répression qui se durcit en 41, comme le, par exemple le procès de Rion, l'idée, c'est vraiment le projet, c'est de juger ceux qu'on considère comme étant coupables. Et il faut punir ceux qui ont péché, puisque c'est un peu le mode de raisonnement. Et c'est pas simplement une réaction à l'idée que la résistance serait en train de monter ou ce type de choses.
Absolument. Et là aussi, c'est une chose que moi je savais pas. C'est Virginie Sancicco qui me l'a appris, qui l'a très très bien montré. Elle a fait une thèse magistrale sur la justice sous Vichy. Elle fait partie de ces jeunes chercheuses qui ont vraiment renouvelé ces dernières années les travaux. Ce qu'elle montre, c'est que la création des tribunaux d'exception en 1941, notamment pour réprimer les communistes, il y a aussi Rion qui va pour punir les responsables de la défaite, mais ce qu'elle montre sur les tribunaux d'exception anticommunistes, des sections spéciales, c'est que c'est pas simplement une demande allemande pour réprimer les premiers attentats communistes, c'est déjà dans les cartons. C'est là, c'est un projet qui est propre à la révolution nationale. Donc il y a vraiment un moment 41 dans l'histoire de la collaboration et de la répression propre à Vichy. Puis aussi le fait qu'on va redoubler la répression contre les juifs. 41, c'est vraiment un moment de durcissement de cette politique, qu'on va publier les listes des francs-maçons au journal officiel, qu'on va les renvoyer de manière systématique de la fonction publique. Il y a vraiment là un Vichy qui se durcit, mais vous le rappeliez au début de notre entretien, la question de la collaboration et de la révolution nationale sont toujours entremêlées. Et quand le maréchal Pétain tient ce discours très connu du 12 août 1941, ce qu'on appelle le discours du vent mauvais, quand il commence en disant « Je sens se lever dans ce pays un vent mauvais, j'étais votre chef, votre père, mais maintenant je vais être plus dur », il formule les choses à peu près comme ça, et bien, il dit aussi l'Allemagne est le rempart de la civilisation. Donc on voit que les deux sont complètement entremêlés.
Et qui va arriver après le retour de Laval à cette phrase sur laquelle vous passez un temps certain, qui est très très intéressante, qui évidemment est très connue, qui est le moment où Laval dit « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Et ce que vous montrez, c'est d'abord comment elle est imaginée, comment elle est même testée, comme on fait aujourd'hui dans les cabinets ministériels pour savoir la réaction de l'entourage, et comment elle va, en revanche, à la fois créer une ligne entre une partie de la France de plus en plus importante et Vichy, et même au sein de Vichy.
Absolument, c'est un moment très important. Vous l'avez dit, il y a un durcissement interne, 41, une première fascisation. On ne peut pas dire que ça a été couronné de succès. Les Allemands ne prêtent même pas attention à une offre d'alliance militaire, même politique, qui a été faite par le gouvernement français en juillet 41. Ils ne sont pas du tout prêts, les Allemands, à offrir quoi que ce soit en contrepartie. Donc ça ne marche pas, la collaboration, c'est un échec. Et donc Pétain abat sa dernière carte en avril 42, il rappelle Laval. Et alors Laval, il arrive pour faire réussir la politique de collaboration. Donc il laisse tomber en quelque sorte la révolution nationale. Il n'y a plus vraiment de fascistes à ce moment-là dans le gouvernement. La plupart partent. Benoît Méchain se retrouve marginalisé. Darlan, on l'envoie en Afrique, à la tête des armées françaises. Et donc, c'est un moment de grosse pression allemande. Les Allemands exigent les travailleurs dans les usines. Ils exigent aussi les Juifs. Et il se dit, j'ai trouvé un truc pour essayer de montrer que je suis vraiment de bonne volonté pour eux. Et il y a cette phrase. Et effectivement, c'est un des chapitres les plus, entre guillemets, amusants du livre, dû à Renaud Mels, qui est le biographe de Laval. C'est un chapitre assez extraordinaire parce qu'il montre, c'était peu connu, comment ce discours a été préparé avec cette phrase « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Effectivement, il le teste autour de lui et tout le monde lui dit dans son entourage, y compris sa fille, y compris son gendre, Paul Morand, dont il est un de nos grands témoins, « Mais surtout, ne dites pas ça !» Et Laval dit « Si, si, je vais le dire. On me comprendra pas maintenant, mais plus tard on me comprendra, je vais sauver le pays. » Enfin, on voit quelqu'un qui est complètement pris, et ça aussi, ça nous parle aujourd'hui, de voir des gens qui sont coupés du réel.
Avec de l'obsession de négociation qui est celle de Laval, qui a toujours perçu être un négociateur génial, il dit « Cette phrase va nous valoir de récupérer 100 000 prisonniers en Allemagne. »
Voilà, parce qu'il y a les prisonniers de guerre, négocier le retour des prisonniers de guerre à ce moment-là, Laval négociait avec les Allemands ce qu'on va appeler la relève. D'ailleurs, le fameux discours « Je souhaite la victoire de l'Allemagne », on a retenu que cette phrase. Mais c'est un discours, et c'est là où ça a été un fiasco absolu, qui était censé annoncer à la population cette idée qu'il pensait extraordinaire, la relève. On va faire venir des prisonniers de guerre et en échange, on va envoyer des ouvriers spécialisés dans les usines. Sauf que le ratio, c'est 3 ouvriers qui partent pour un prisonnier de guerre qui rentre. Ça, il n'ose pas évidemment annoncer ce ratio. Et tout le monde a retenu cette phrase. Et les Allemands, ils n'ont pas baissé leurs exigences. Ils ont toujours voulu un seul prisonnier de guerre contre 3 ouvriers spécialisés. Donc, ce discours va être un choc dans l'opinion. Et à partir de ce moment-là, dans les rapports des préfets, c'est même le mot « haine » qui apparaît. On n'a plus simplement une répulsion contre ce gouvernement de traîtres, mais il y a aussi une haine profonde. Laval est haï par la population. Et ça explique beaucoup ce moment-là. C'est pour ça qu'on s'y attarde beaucoup. Pourquoi aussi, un mois plus tard, un mois et demi plus tard, la population va finalement si facilement basculer lorsque Vichy va livrer les Juifs étrangers? C'est aussi que c'est une population qui est ulcérée par la politique de son gouvernement, qui en plus se déshonore en livrant des femmes, des enfants à l'été 1942.
Alors ça, c'est un point extrêmement important. Je me permets de renvoyer à l'échange que vous aviez eu avec Nicolas Patin à la librairie Mola autour de votre livre dirigé là aussi chez Calmann Lévy sur la France et la Shoah, dans lequel vous décriviez l'ensemble des mécanismes de la participation de Vichy au crime contre les Juifs. Néanmoins, donc il y a un long article évidemment dans le livre, peut-être insister sur cette dimension-là, c'est-à-dire que comment justement... À la fois dans le rapport de collaboration, c'est perçu comme un échec par les Allemands, dans la mesure où il n'y a pas autant de livraisons de Juifs qui le souhaiteraient, et comment ça va créer là aussi une rupture déterminante, aussi bien à l'intérieur de Vichy, et ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus nouveau dans ce que vous dites dans le livre, qu'au niveau de la population française.
Absolument, l'aspect nouveau dans ce chapitre, il y a d'abord ce qu'on n'avait pas encore bien étudié, c'est l'impact international, la résonance internationale à Londres, dans les autres pays, et voir que Vichy se coupe vraiment de parce que Vichy, c'est un gouvernement qui est reconnu par les pays du monde entier, et dans le monde entier, c'est un scandale ce que Vichy fait. Donc là, Laval est obligé d'envoyer des justifications assez grotesques, mensongères, injurieuses. Mais c'est aussi une ligne de partage à l'intérieur du gouvernement. Et ça n'avait jamais été montré. On était resté à Pétain, Laval, Bousquet, le chef de la police. Et ce qu'on a montré, notamment à partir de sources inédites, plusieurs journaux de proches du maréchal Pétain, dont le directeur du cabinet civil de Pétain, André Lavagne, qui note dans son journal que la France prend sa part, que c'est un crime qui déshonore la France, qui déshonore le maréchal Pétain. Donc on voit qu'au sein même du gouvernement, ça a vraiment tangué sérieusement.
Avec cette dimension aussi, qui est très importante, qui est ce que vous dites en conclusion à partir des travaux de Wolfgang Siebel sur le pouvoir de la morale. C'est-à-dire qu'il y a aussi des protestations qui commencent à arriver et qui vont être de plus en plus fortes, à la fois suite au rafle de l'été 42, suite aussi, on y viendra, par rapport à la question du STO, et qui montre que cette réaction, elle produit des effets en limitant ces rafles et l'envoi au STO. Et donc que, quand les acteurs font un choix moral, ils ont un poids.
Absolument. Et pour revenir à une des premières questions que vous me posiez tout à l'heure, c'était très important de bien dire que ce n'est pas une vision d'a posteriori, c'est sur le moment qu'il y a eu prise de conscience qu'il s'agissait d'un crime. Le mot est prononcé. Qu'on avait conscience que les Juifs allaient à la mort. Le cardinal Gerlier le dit. Ils vont probablement à la mort. Le cardinal Gerlier, c'est le primat des Gaules. C'est un homme très influent, c'est un fin politique par ailleurs. Et cet homme fait une protestation publique. Ils sont un certain nombre d'archevêques et d'évêques à faire des protestations publiques. Mais le fait que le chef de l'Église de France fasse lui-même une protestation publique, ça a un impact. Et ce qui permet de montrer que, enfin, ce qui permet de donner, c'est la thèse de Wolfgang Siebel, qui est que la morale peut avoir un effet politique, ou à l'inverse, en politique, il peut y avoir de la morale qui joue. Quand on est en mesure d'avoir une vraie influence. Et c'est parce que, précisément, le cardinal Gerlier était un vrai pétainiste, était un proche du maréchal Pétain, qu'il a pu avoir. Et voilà, si ce n'était pas un opposant, ça qui est intéressant. Et ça nous parle aujourd'hui. C'est ce sont quand des gens qui sont proches d'un pouvoir s'opposent à ce pouvoir, que là, un pouvoir peut être désarçonné. Et c'est vraiment ce qui s'est passé sous Vichy, où là, Pétain, Laval constate que des gens qui jusque-là les soutenaient ne sont pas d'accord, ne marchent plus et leur disent « vous faites une erreur ». d'ailleurs, le cardinal Gerlier dit même, je fais ça pour vous aider. C'est ce qu'il dit au maréchal Pétain. Et d'ailleurs, le directeur du cabinet civil de Pétain le dit dans son journal. On a besoin de ne plus être complice. Et donc, ça va effectivement obliger Vichy à renoncer à la deuxième phase, ce qui était prévu à l'été 1942, c'est que d'abord on livre les juifs étrangers, et après on livre les juifs français, devenus français depuis la loi de 1927. Et là, Laval et Bousquet disent, ben non, on peut pas, on va vous donner tous les juifs étrangers que vous voulez. Donc les Allemands vont se contenter de ça, parce que les Allemands voient bien qu'ils ont besoin de ce pouvoir qui leur garantit de la stabilité, qui fait le travail pour eux. Donc ils veulent pas, les Allemands, Gauleiter, ils veulent pas que la population soit liguée contre eux, que l'administration n'obéisse plus. Ils ont besoin de cette obéissance de l'État français. Donc ils acceptent ce deal. On va prendre tous les juifs étrangers, puis quand on aura le temps, peut-être même quand on aura gagné la guerre, on prendra les autres. Mais vous voyez qu'il y a cet arbitrage pragmatique, en quelque sorte, qui est décidé par les nazis, par Himmler lui-même, parce que on voit que Laval n'a pas le soutien de l'opinion, et l'opinion catholique, ça pèse énormément à l'époque.
Oui, parce que vous le dites, effectivement, ce qui prime pour les Allemands, c'est que la France reste stable. Et ça, c'est vraiment aussi important, puisque alors que le pouvoir collaborationniste, enfin collaborateur, est obsédé par l'idée de se faire reconnaître comme une nation qui peut-être pourrait participer à la victoire de l'Allemagne, le souci de l'Allemagne, c'est que la France globalement reste calme, reste un pays sous contrôle, administré, et que si sa participation aux différents projets nazis n'est pas complète, c'est moins grave que si la France est en chaos, puisqu'ils savent que dans ces cas-là, il n'y aura aucune possibilité d'y mettre leur politique.
Absolument, on voit ces arbitrages. Alors, évidemment, dans l'esprit d'Hitler, dans l'esprit des dirigeants nazis, exterminer les Juifs, c'est aussi, ça participe aussi de la guerre. Ce sont mais il y a un côté irrationnel, il y a un côté de vengeance. Donc, parfois, ça va contre les intérêts militaires, le fait d'exterminer autant de Juifs, d'affréter des trains. Donc, il y a des moments d'arbitrage. Et on voit très clairement en France que ces moments d'arbitrage ont joué, parce que, pour une raison simple, c'est que la France, c'est décisif dans le cadre de la guerre. On sait que c'est là qu'il y aura lieu un débarquement allié. On le sait dès août 42, en fait, dès la première tentative à Dieppe. Et donc, les impératifs militaires de répression de la résistance, de stabilité, vont la plupart du temps être primés sur ceux de la solution finale. On voit différents moments d'arbitrage. On en voit encore en juin 44, quand vous avez l'un des chefs de la police qui dit, ben maintenant, on peut arrêter des Juifs à Paris. Il y a plein de Juifs encore à Paris. Et là, on lui dit, non, juin 44, c'est le débarquement. La population s'est pas soulevée. On attend. On fera ça une fois qu'on aura gagné la guerre. Donc, il y a constamment comme ça des arbitrages. Et effectivement, les Allemands, de toute façon, ça, c'est une réalité factuelle, n'ont jamais mis les moyens pour traquer les Juifs. Vous avez un délégué du service d'affaires juives de la Gestapo, qui s'appelle Aloïs Brunner. Il réclame des hommes. On lui envoie pas d'hommes. On dit, non, la priorité en France, c'est la traque des résistants, des communistes, pour arrêter les Juifs. Vous vous débrouillez avec les moyens du bord.
Et alors, justement, sur la question de l'évolution de l'opinion, il y a un article absolument passionnant sur la question du STO. Le STO, qui d'une certaine façon prend la suite de ce que vous évoquiez avec la relève, et sur la façon dont, dans un premier temps, il y a une sorte d'adhésion, sur laquelle j'aimerais qu'on revienne d'ailleurs, parce qu'on n'en sait pas forcément les mécanismes, mais qui fait que les premières quantités d'ouvriers demandés sont obtenues et envoyées en Allemagne. Et puis, très rapidement, une résistance passive, active parfois sous la forme de grève ou de manifestation, mais surtout passive, se met en place. Et on aboutit, on passe de 100% à 5% en très peu de temps.
Absolument, et ça, c'est ce chapitre très important de Raphaël Spina. Il nous fait vraiment voir le régime de Vichy et ses liens avec son administration et les liens avec la population autrement. C'est-à-dire qu'on observe, et c'est là où vraiment une compréhension très fine de l'évolution de l'opinion révèle des choses qui étaient un peu cachées. On peut être contre un pouvoir et quand même lui obéir. Voilà, ça, c'est quand même ce qui se passe longtemps. Et on voit que, alors qu'on a une population qui a été choquée par le discours de Laval, on en a parlé, le discours de juin 42, je souhaite la victoire de l'Allemagne, les rafles anti-juives, le STO, le travail obligatoire, la réquisition forcée, c'est une loi de septembre 42, février 43, c'est trois classes d'âge qui sont requises, 20, 21, 22, des gens qui ont des très jeunes gens. Et ben, au début, on obéit. On obéit parce que même si on est en désaccord, on se dit qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire. Et puis surtout, il n'y a pas encore cette conviction. Vous savez, il n'y a de désobéissance massive que quand on est convaincu que si moi je fais ça, mais il y a aussi mon voisin qui le fait. Il y a aussi, tout le monde le fait. Sinon, quand on se dit je vais être le seul à m'opposer, on n'ose pas le faire. Enfin, ça, c'est vraiment des effets de psychologie collective bien connus. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Et donc, on a un gouvernement qui est prêt à tout pour faire réussir cette politique, qui utilise tous les moyens. Laval le dit, c'est un homme qui mate son peuple. Et oui, 100% janvier 43, 100% tout le premier trimestre 1943, 250 000 travailleurs. Les Allemands n'en reviennent pas. Ils voulaient 250 000 travailleurs, ils ont 250 000 travailleurs. Et l'été 43 est vraiment un basculement, parce que là, il y a l'Italie qui a retourné sa veste, donc c'est le principal allié de l'Italie. Il y a eu quand même une série de défaites militaires. Il y a les maquis qui commencent à s'organiser. Et là, c'est vraiment le moment de l'effondrement. C'est vraiment l'été 43, vous l'avez dit, on passe de taux de réquisition qui sont de 100%, de 80% encore en juin 43, à tout d'un coup, en quelques mois, 5% simplement de réquisition. Quand on regarde les premiers sommets, les premiers mois de l'année 44.
Oui, parce que vous dites effectivement qui est absolument passionnant, c'est à partir du moment où la désobéissance devient massive, elle s'auto-entretient.
S'auto-entretient, exactement. Et on a la population qui massivement soutient. On a aussi des fonctionnaires qui désobéissent massivement. Pour qu'un fonctionnaire désobéisse, ça va pas de soi. On peut essayer de pas faire de zèle, mais aller jusqu'à désobéir, aller jusqu'à faire du sabotage interne. Ça, c'est vraiment ce qui se passe durant la dernière année.
Avec, pour revenir un tout petit peu en arrière, là aussi un moment très important en termes de choix et d'arbitrage. Après l'opération Torche, après le débarquement en Afrique du Nord, vous dites, l'État profite de ce qui lui reste de marge de manœuvre pour faire le choix de la surenchère collaborationniste. Donc ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que là, il y a un moment, tout le monde sait que c'est un point de bascule. D'ailleurs, il y a un débat que vous rendez très bien entre les Anglais et les Américains. Les Américains sont persuadés que dès qu'ils vont se montrer, les forces vichistes vont s'allier à eux. Les Anglais disent non, probablement pas, ils vont vous combattre. Et les Anglais en savent quelque chose. Et c'est plutôt les Anglais qui ont raison dans un premier temps. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Donc à chaque fois que le choix est possible pour des acteurs de Vichy, pour une partie des acteurs de Vichy, de prendre le choix qui semblerait, et toujours a posteriori, un peu le sens de l'histoire, ils font le choix d'un jusqu'au boutisme de la collaboration.
Tout à fait, cette idée qu'on... Alors, on ne remet pas en cause les grandes étapes, mais c'est vrai qu'il y avait quand même une lecture de l'histoire de Vichy qui a dominé longtemps dans l'historiographie, c'est qu'après novembre 42, Vichy, c'est un État croupion, qui n'a plus de marge de manœuvre, qui est une marionnette aux mains des Allemands. Eric Jennings montre bien dans son chapitre Vichy seul au monde, que Vichy peut-être seul au monde après novembre 42, mais que Vichy a encore des moyens militaires qui lui permettent d'opposer une résistance farouche au débarquement anglo-américain. Mais surtout, ce soi-disant État croupion a encore des moyens, on vient de le dire, pour rendre efficace sa politique de livraison de travailleurs français. Elle est obéie par son administration, une police qui est efficace, qui traque les jeunes, qui les envoie en Allemagne. Mais c'est aussi un État qui va même profiter de ses marges de manœuvre pour s'opposer aux Allemands. À l'été 43, quand là, il y a vraiment... C'est un tournant à tout point de vue, et y compris au sein du gouvernement français, où Laval comprend que là, maintenant, les Allemands ont vraiment perdu la guerre. Et les Allemands reviennent à la charge à propos de la livraison des Juifs naturalisés. C'est quand même beaucoup. C'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui pourraient toucher, grâce à une loi de Vichy qui dénaturalise collectivement l'ensemble des Juifs. Et Laval, au dernier moment, dit non. Il se dit, là maintenant, j'en ai peut-être trop fait. Et les Allemands peuvent rien faire contre ça. Alors qu'on a plus d'armée d'armistice, plus de zones libres, évidemment, plus de marine. On a, le gouvernement français a plus tellement d'atouts, mais quand même suffisamment pour s'opposer aux Allemands. Donc on voit qu'on a un gouvernement qui garde encore un certain nombre de leviers. Ça, c'était un peu minoré. Ça a été longtemps minoré par l'historiographie.
Alors, on ne peut pas rendre compte de l'ensemble des richesses de cet ouvrage. J'aurais voulu qu'on termine avec deux points. Un point qui est donc l'article Vichy après Vichy, et entre autres sur la question de l'épuration judiciaire, avec une chose qui est soulignée, qui est très intéressante, qui est que là aussi, sur la question de la lecture a posteriori, finalement, les objectifs et les modes de jugement du système judiciaire au moment de l'épuration ne sont pas les critères que nous, on a d'un point de vue historique. C'est-à-dire que la question, c'est ceux de la loyauté, du complot, etc., quand nous, on juge d'autres choses aujourd'hui. Peut-être, est-ce que pour vous, cette épuration judiciaire, finalement, elle a atteint son but, elle est globalement, entre guillemets, bien faite, je ne sais pas si c'est le bon vocabulaire pour la juger, ou est-ce qu'au contraire, elle laisse passer beaucoup de gens entre les mailles du filet ?
Alors là, le chapitre qui est rédigé par Bénédicte Vergès-Chénion est très nuancé, parce que d'une part, il montre qu'il y a eu énormément d'enquêtes et que ces enquêtes, d'ailleurs, nourrissent des dossiers qui sont des sources extraordinaires pour les historiens, mais qu'effectivement, il y a des questions qui ont été mises de côté. Et ça nous surprend dans le procès Pétain. On parle finalement assez peu des crimes de Vichy, de la politique interne de Vichy, sous ce que aujourd'hui. Le public voudrait, voilà, se dirait, c'est peut-être ça qu'on aurait dû creuser. On a perdu beaucoup de temps, effectivement, dans le procès Pétain, à imaginer qu'il y avait eu un complot contre la République, et ça a mené un peu l'accusation vers des voies de garage, et aussi les crimes antisémites qui ont été peu abordés, même si c'est un peu une idée reçue de dire qu'ils ont été entièrement occulté. Grosso modo, les principaux dirigeants de Vichy ont payé, comme on dit. Voilà, il y a eu, c'était une nécessité même de la restauration républicaine. Il fallait condamner Pétain à mort, mais pas le fusiller parce qu'il avait 89 ans en 1945. Laval avait aucune chance de s'en sortir. Bien sûr, un procès expédié, un procès décevant, parce que c'est un procès qui peut pas vraiment avoir lieu, parce qu'on a un accusé qui est prêt à tout pour se victimiser pour faire échouer ce procès. Donc ça finit avec cette exécution un peu sordide. Il a tenté de se suicider, puis on le réveille. Et il y a alors, par rapport à l'administration, par rapport au finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le principal échec de l'épuration, c'est l'affaire Bousquet. C'est-à-dire que le secrétaire général à la police, celui qui est quasiment ministre de l'Intérieur de fait, sous le règne de qui 60 000 juifs ont été déportés, il n'y a jamais eu autant de répression anticommuniste. Bref, c'était le candidat idéal pour le peloton d'exécution. Bousquet est jugé le dernier par la Haute Cour de justice en 1949 et il est acquitté. Donc là, il y a vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas aujourd'hui, qu'on ne comprend pas par rapport aux charges qui sont dans le dossier, qui est aussi cette sortie de l'épuration assez précoce. Et finalement, le crime de bureau, ça a été sous les radars. Voilà, sous les radars, parce que le crime de bureau, on ne pouvait pas le juger. Le crime contre l'humanité n'est pas encore dans le droit français. Et tout ça explique un peu cette deuxième épuration. Comme on dit, et c'est un terme impropre en fait, parce que c'est juste trois procès des années 80, 80, enfin 90, avec le procès de Paul Touvier et surtout le procès de Maurice Papon, qui a un peu été le procès de la haute fonction publique dans son rôle de complicité dans la déportation des juifs. Donc les Français ont eu un sentiment de quelque chose qui a été massif. Épuration, c'est quelque chose de massif, c'est des centaines de milliers de procédures, d'internements, et en même temps, cette idée que beaucoup de gens n'ont pas payé comme ils auraient dû.
Laurent Joly, merci beaucoup de cet ouvrage extrêmement riche qui nous permet d'avoir une vision à la fois précise et extrêmement nuancée de ce que fut la dictature de Vichy. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.